France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Bonjour à toutes et à tous. Tout à l'heure, à 13h, comme promis, je recevrai le comédien Nicolas Bouchot. Il joue dans Palombella Rossa, tiré du film de Nanni Moretti. Ça se passe à la MC 93, à Bobigny. Mais tout de suite, on critique aujourd'hui deux classiques de l'opéra, deux créations. L'Or du Rhin, dirigé par Pablo Heras Casado et mise en scène par Calisto Bieto. Et Médée, dirigé par Laurent Sequilbé et mise en scène par Marie-Ève Signerol. Voilà le menu et voici les critiques. Anna Sigalevitch.
Bonjour.
Bonjour, journaliste et autrice qui vient de nous rejoindre en courant. Emmanuel Giuliani, journaliste au service culture de la Croix. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux. Les Wagneriens ont reconnu L'Or du Rhin, cet opéra en un acte qui constitue le prologue de la tétralogie monumentale Le Ring. Une création autour de l'anneau de Nibelung que Richard Wagner a mis 30 ans à écrire est toujours un événement, en tout cas sur le papier. Dans cette version présentée à l'Opéra Bastille, les dieux sont des hommes qui maîtrisent les nouvelles technologies et participent à la déshumanisation du monde. L'Or du Rhin, objet de toutes les convoitises, c'est le big data, le transhumanisme, à la mise en scène, le catalan Calisto Bieto et à la direction Pablo Heras Casado. On va commencer avec un avis rapide de l'une et de l'autre. Et d'abord, c'est à vous, Anna Sigalevitch.
Alors, le projet, en effet, me semble plutôt intéressant et pertinent quant à ce que raconte l'œuvre. Après, la façon dont ça joue en scène, c'est plus discutable, même si je trouve qu'il y a de vraies belles idées sur la caractérisation et sur les personnages. Et j'ai des réserves aussi assez grandes, je dois dire, sur la direction d'orchestre. Voilà, donc c'est un avis un peu mitigé.
En demi-teinte, excusez-moi, Emmanuel Giuliani, pardon.
Oui, je vais rajouter un peu de gris ou de noir dans cette demi-teinte. Parce que moi, vraiment, j'en suis sortie très insatisfaite, pour des raisons scéniques, on y reviendra, et aussi musicales, une direction, un très bel orchestre, mais une direction qui n'est pas toujours aussi tendue et impressionnante qu'on le souhaiterait, et d'énormes réserves sur le plateau vocal, disons sur la cohérence du plateau vocal qui tire à U et à Dia.
Ouf. Alors, on va écouter tout de suite un extrait de cet Or du Rhin que vous avez choisi déjà, d'ailleurs, Anna Sigalevitch. Oui. L'Or du Rhin à l'Opéra Bastille. Anna Sigalevitch, cet extrait, qu'est-ce qu'on entend là dans cet extrait?
Alors, on entend le moment, vous entendez le tam ta ta dam pam, c'est l'arrivée donc des géants de Fasolt et Fafner qui viennent réclamer leur dû, en l'occurrence cette pauvre Freya qui est donc la sœur de Frika. Votan a commandé un immense palais et en échange de la construction de ce palais qui est achevé au moment où commence l'Or du Rhin, eh bien ils doivent donner Freya. Et donc, Frika est furieuse, Freya est effrayée, si je puis dire, et là, c'est l'arrivée de Fasolt et Fafner, qui donc réclament leur dû. Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que je trouve que le rôle de Frika et le rôle de Freya sont très bien interprété, surtout celui de Frika par Marie-Ève Marie-Ève Signerol.
Oui, oui, absolument.
Je commence à bugger. Excusez-moi, c'est ma course qui m'a un peu perturbée. Ève Maud Dubeau, qui est vraiment, je trouve, assez exceptionnelle et vocalement et dramatiquement dans ce spectacle où elle tire vraiment son épingle du jeu. Et j'ai énormément aussi aimé le Fazold. Bon, on lui a un tout petit peu coupé la chic là. Il a juste dit quelques mots, mais de Kwangvul Yoon, qui est aussi un chanteur, un grand wagnérien, qui a un moelleux, un apanage sur scène et une présence, je trouve, très impressionnante. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Alors je dois quand même, pardon,
voilà,
préciser...
Voilà, on va peut-être expliquer ce qui s'est passé pour votre représentation.
J'ai assisté à une représentation un peu sinistrée, si je puis dire, puisque j'y suis allée dimanche dernier... Ian Peterson était malade, donc on nous a annoncé...
C'est lui qui incarne Votan.
Voilà. Donc le dieu des dieux, le grand rôle. Donc il était malade, donc on nous a dit... Alors, il va quand même être là en scène, donc il était en scène. Il a commencé le premier quart d'heure par une sorte de Sprechgesang, qui s'est vite transformé en fait en
ça
texte.
Ça veut dire quoi, Sprechgesang?
Sprechgesang, c'est le parler chanté. Pardon, excusez-moi, le parler chanté. Donc il y avait un peu de notes, mais bon, de moins en moins au fil des minutes qui passaient. Et ça s'est transformé carrément en texte. Et je dois dire que... Ben, je me suis habituée au bout d'un moment, alors bien sûr c'est un peu particulier, mais dans le genre, j'avais fini par m'habituer au bout d'une heure, une heure et demie comme ça. Et alors là, très étrange, au bout d'une heure 45, il a été remplacé vocalement par le chanteur qui chante Alberich, qui est Brian Mulligan. Donc, quand Alberich avait terminé son grand air, son rôle, il est entré en scène à Jardin, derrière un pupitre, et... Votan, Ian Peterson mimait le rôle. Bon, franchement, c'est quand même très compliqué de rester dans la représentation avec une configuration comme celle-ci. Donc, je dois faire part de ce que j'ai vu et de cette représentation un peu particulière, quoi.
Mais pour le reste, ce qu'on a entendu, là, vous aviez l'air plutôt de trouver ça pas mal.
Ah oui, ça, j'ai trouvé ça. Enfin, en tout cas, Frika, je la trouve très bien. Freya aussi. Je trouve qu'il y a des idées, en fait, sur les personnages. Et ça... Ça me paraît pas mal, il y a une vraie caractérisation. Par exemple, Frika, elle a un rôle qui est très important, elle est quasiment légale. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle chantait et que l'autre parlait que j'ai ressenti ça? Peut-être, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que la représentation que j'ai vue, je l'ai trouvée très forte en scène, très présente, pas le personnage écrasé par Votan comme on peut voir parfois ou un peu mégère. Je l'ai trouvée puissante, ils ont des rapports violents tous les deux. Elle tire les fils autant que lui de cet or du Rhin, parce que par exemple, le moment où Votan va prendre l'or... à Alberich, qui a réussi à piquer l'or aux filles du Rhin. Donc, quand il va récupérer l'or avec Logueux, qui est le dieu du feu. Pardon, il y a énormément de personnages. C'est très, très compliqué à comprendre et à résumer comme ça. J'espère que c'est à peu près intelligible. Et donc, à ce moment-là, Frika, donc, elle est là, elle est muette en scène, mais elle est en hauteur. Elle vérifie, elle contrôle. Et c'est un personnage qui existe de façon intéressante. J'ai beaucoup aimé le traitement aussi du rôle de Freya, qui est un peu la marginale de la famille. On sent qu'elle est un peu comme ça, toujours à l'écart. Elle est habillée un peu comme une enfant, avec une robe brodée blanche et des bottes de pluie et un ciré. Et à mon avis, quelque chose de très beau et de très intéressant, c'est qu'elle refuse finalement de rentrer dans la famille. Et à la fin, elle ne rentre pas dans le Valhalla comme on voit toujours, normalement, avec l'or du Rhin. Et elle choisit de s'extraire, de ne pas rentrer et de s'immoler par le feu avec Logueux, qui est donc... Le dieu du feu. Donc, pour moi, il y a des caractérisations de personnages qui sont très réussies.
Emmanuel Giuliani, pardon, sur la mise en scène, alors, qu'est-ce qu'on en dit?
Alors, moi, j'aimerais bien avoir pu voir tout ce que Anna y a vu. Moi, j'ai trouvé une très grande confusion. L'or du Rhin, c'est donc le prologue de cette tétralogie. Quatre journées où on situe un peu les différents univers, qui sont des univers évidemment mythiques, disons en gros la mythologie germanique, et les univers qui correspondent aussi à des éléments. On est dans le Rhin, ou l'eau matricielle qui détient cet or, qui sera la convoitise de tous. Quand on a l'or, on a la puissance, mais on renonce à l'amour. Donc c'est déjà un choix évidemment existentiel extrêmement fort. On a ce niveau terrestre où se passeront après dans les autres journées d'autres actions, mais qui là est occupé par les géants dont a très bien parlé Anna. Et ces géants, c'est une force de travail qui a travaillé pour les dieux. Les dieux qui se font construire donc ce Valhalla, cet Olympe, ce château de l'Olympe, pour essayer de gouverner le monde et de faire la loi. Mais déjà, le ver est dans le fruit, parce que là, comme vous l'avez dit, Anna, pour payer ce château, il a fallu donner la déesse de l'éternelle jeunesse. Donc Freya, peut-être elle est une marginale, mais elle est la condition de la survie et de la jeunesse de Dieu immortel. Elle est la condition de l'immortalité. Donc, en faire une marginale qui s'immole par le feu, c'est peut-être une caractérisation intéressante si c'était un autre personnage. Je trouve que pour Freya, on ne comprend pas très bien.
Mais plus largement, j'ai pas très bien compris. Sur l'aspect voilà, numérique...
Alors, l'aspect numérique, si vous voulez, c'est de dire aujourd'hui la vraie puissance, qui entraîne sans doute aussi une forme de malédiction et de course à l'argent, au pouvoir, c'est la force des data. Bah, on est en plein sommet de l'IA. On est dedans. Oui, bien sûr, il y a 30 ans, on l'aurait fait sur le pétrole et les énergies fossiles, etc. D'ailleurs, Freya, elle s'immole avec une énergie fossile. Peut-être, on peut dire que c'est une idée, pourquoi pas. Je la trouve pas très bien menée, repérée grâce à des câbles, des humanoïdes et des androïdes et des écrans d'ordinateur. Mais tout ça est un peu brouillon, bâclé. Franchement moche.
Non, mais je suis d'accord
et
avec.
Et donc cette idée qui peut-être sur le papier n'est pas neuve, mais aurait pu avoir une certaine pertinence, je trouvais très abîmée par sa réalisation scénique et une direction d'acteur qui tire quand même un peu à Huéadia. Certains jouent comme en effet Eve Modubo. Certains ne jouent pas du tout, sont plantés là et ne font rien. Donc je n'ai pas compris grand-chose.
Alors sur la direction musicale, Anna Skilevitch.
Alors sur la direction musicale, c'est compliqué aussi. Je trouve que dès l'ouverture, c'est compliqué parce qu'on n'a pas ce miroitement, ce grand crescendo comme ça qui doit. Enfin, ça commence vraiment par un pianissimo extrême et petit à petit, ça doit monter pendant les 136 mesures que dure cette ouverture, qui est quand même un moment de musique complètement inouï. Et là, c'est vrai que moi, ça a commencé tout de suite mezzo-piano, je dois dire. Et puis ça montait un peu comme si on montait le son avec une chaîne, tac, 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 sans réelle, à mon sens, subtilité. Et alors surtout, comment dire, vous savez, quand on sort d'un opéra de Wagner, on peut parfois avoir le sentiment d'être vraiment plein de musique, d'être enivré, d'en avoir dans tout le corps et d'être complètement galvanisé en fait par la densité, la beauté, la richesse de la palette orchestrale avec cette grande arche qui se dessine comme ça et qui se déploie pendant 2h30 en continu. Or là, je n'ai absolument pas eu le sentiment d'avoir tous les pores de ma peau et toute ma chair remplie de musique. C'est pas du tout mal fait, c'est propre, c'est sage, mais sans réel lyrisme, sans réelle tension dramatique, sans emphase, enfin sans grand geste wagnérien, alors que pourtant c'est un chef qui dirige hein, Wagner. Moi, c'est la première fois que je l'entends dans ce répertoire, et ça a été, je dois dire, une grande déception, grande frustration.
Ce serait son interprétation.
Ça, c'est difficile. Alors moi, j'étais à la première où Ian Peterson a chanté. Je vous rassure, entre son chant et son parler, il ne doit pas y avoir une différence phénoménale. Peut-être était-il déjà malade n'a-t-il pas ou plus vraiment la voix du rôle. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je trouve un peu scandaleux de ne pas proposer au public de le rembourser quand Votan, qui est quand même l'un des rôles principaux, ne chantera pas. Je ferme ma parenthèse. C'est une question, voilà. La direction, oui, je crois, le jour de la première, c'est tout à fait ce que vous avez dit, Anna. En revanche, il est parti très, très pianissimo de cet accord. On disait le Rhin, c'est la source de toute chose. Vraiment, c'est le bruit du monde qui se crée depuis le fond, très fond, encore plus profond des eaux. Et ça, cet accord qui devient, et puis, qui après se laisse emporter par les flots du Rhin, a été assez bien réalisé. Je dirais que, en effet, il y a des baisses de tension. Et puis moi, ce qui m'a manqué, alors que l'orchestre jouait très très bien, quelques petites faiblesses au cuivre à la fin, mais au bout de 2h30, ils sont très pardonnables, surtout qu'ils jouent magnifiquement le reste du temps. Moi, ça manque de climat. On a entendu les géants. Bien sûr, c'était impressionnant. Mais d'habitude, ça doit être un son d'un autre monde. On est dans... Ces géants, c'est des créatures, c'est la première fois qu'on les voit, d'ailleurs on n'en verra plus qu'un après, bien loin dans l'action et transformé en dragon, mais ça doit être une dimension inouï au sens littéral du terme. Et là, c'est un très bel effet de cuivre, de percussion et de cordes graves. Et non pas un son dont on se dit « mais j'ai jamais entendu ça avant ». Voilà, on ne se dit pas assez « c'est fou, ce prologue m'annonce des choses que je n'ai jamais entendues avant » ou en tous les cas une synthèse de toutes ces musiques qu'ont précédé Wagner, parce que Wagner, il ne vient pas de rien, mais dont il fait quelque chose qui d'ailleurs marquera les temps et créera des polémiques et des passions et des... Et Wagner, c'est une drogue dure. Et là, on a eu un très bon repas.
C'était donc L'Or du Rhin à l'Opéra Bastille, c'est jusqu'au 19 février 2025. Et je précise qu'une diffusion de l'opéra est prévue sur France Musique, ce sera le 15 mars 2025 dans l'émission Samedi à l'Opéra. Quel rôle plus tragique et saisissant que celui de Médée, cette mère infanticide par dépit, par désespoir. 12 ans après Christophe Warliskowski, sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, Marie-Ève Signerolles s'empare de cette tragédie écrite en 1797 par Luigi Cherubini. Un drame qui trouve évidemment des échos dans notre actualité. Ici, Médée est une étrangère, une femme qui a migré. Elle est aussi une femme prise au piège d'un système patriarcal. Elle est incarnée sur la scène de l'opéra comique par la soprane Joyce Elkouri. À la direction, la chef Laurence Equilbé. On commence avec un avis rapide, et c'est d'abord à vous, Emmanuel Giuliani.
Je suis désolée pour nos auditeurs, ils vont dire vraiment que je suis quelqu'un de très méchant, et je n'ai pas aimé du tout. Mais là, vraiment, je n'ai rien aimé, à part une chanteuse que je cite tout de suite, Marie-Andrée Bouchard-Lecieur, merveilleuse mezzo-soprano, qui... Voilà, je n'ai rien. Alors, on va détailler, bien sûr, mais vraiment, c'est
radical.
Je suis sortie, vraiment en difficulté et je m'en veux un peu. Et j'espère que dans notre discussion, des pépites vont apparaître de cet état un peu dépressif que j'éprouve.
Grosse pression, Nancy Galevitch.
Alors,
rapidement, c'est un petit mot d'intro.
Moi, je trouve que la mise en scène ne manque pas d'idées. Il y en a peut-être trop et elles sont pas forcément réalisées. Pour moi, il y a un problème de théâtre, en tout cas, de direction d'acteurs et de cast, en effet, avec pour moi vraiment un problème majeur qui est la Médée de Joyce Elkouri, qui a un rôle, en effet, très écrasant, très difficile, mais elle n'a ni la carrure vocale ni dramatique pour l'incarner, donc c'est vraiment dur. Pour moi, il y a quand même des beautés musicales dans les parties d'orchestre. Hein, l'ouverture, par exemple, j'ai aimé la direction de Laurence Equilbé dans l'ouverture et dans tous les passages orchestraux où je trouve qu'il y a un vrai nerf, il y a des dynamiques, il y a une tension dramatique. Donc ça m'a plu et j'ai aimé le son de l'orchestre. Après, dans les passages avec les chanteurs, c'est plus compliqué, mais voilà, pour un premier avis relativement rapide.
On va écouter un extrait choisi par vous, Emmanuel Giuliani, et on précise que c'est un extrait de la répétition générale.
Oui, tout à fait.
Médée de Marie, mise en scène par Marie-Ève Signerolles, dirigée par Laurence Equilbé, c'est à l'Opéra Comique jusqu'au 16 février. Emmanuel Giuliani, alors comme on est à la radio, on va parler de ce qu'on entend.
Oui.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on entend là et qu'est-ce qui vous convient et qui vous a déçu par exemple?
Alors on a entendu des chœurs et la partie chorale est très importante dans Médée et c'est peut-être, en tous les cas, tels que nous livrait le spectacle, les moments les plus convaincants et les plus intéressants, parce que le cœur est traité d'une manière fluide dans ses entrées et sorties scéniques et musicales. C'est le cœur Accentus de Laurence Equilbet, donc il y a une belle complicité entre la fosse et le plateau, et les voix, bon, parfois dans les sopranos, j'étais un petit peu étonnée, j'étais habituée à plus de rondeur et de moelleux chez les sopranos de Laurence Equilbet, mais c'était, enfin de Accentus, mais c'était la première, donc voilà, tout ça va s'arranger certainement au fil des représentations, et il y a donc encore une fois un traitement choral qui est tout à fait correct. Vocalement, bon, ben, comme l'a dit Anna, il y a vraiment un gros problème de rôle-titre, et moi que j'étendrai un peu à l'ensemble de la distribution. La fiancée, donc Médée revient, Jason l'a abandonnée et s'apprête à épouser donc une autre femme, veut garder les enfants qu'il a eus avec Médée, et maintenant, en gros, après qu'elle l'a aidé à conquérir la toison d'or et pour cela à semer la mort et la désolation autour d'elle, eh bien maintenant qu'il a ce qu'il a voulu, il a eu l'or du Rhin, en gros, et maintenant il veut rentrer dans son Valhalla tranquille avec une nouvelle femme qui lui posera moins d'histoires et dire à Médée, bah, va vivre ailleurs heureuse. Elle ne l'entend pas de cette oreille et évidemment tout ça va se terminer abominablement mal. Jason, c'est Julien Bert, le ténor Julien Bert, qui a toujours ce joli timbre très juvénile. Le rôle le pousse dans des extrémités et des tensions qui ne sont peut-être pas pour sa voix, ce qui fait que tout le charme de ce chanteur, là, est un peu pris au piège de quelque chose de trop grand et de trop violent pour lui. Mmh. Et puis donc j'y reviens dans le rôle de la suivante de Médée, Néris, qui joue un peu les utilités, sauf un grand air terriblement long et répétitif de la part de Cherubini, qui n'est quand même pas... c'est pas Wagner, enfin on n'est pas du tout à la même époque, etc. Mais c'est pas Gluck non plus, hein. C'est quand même pas une musique... tout le temps hyper inspirant.
Ah, moi je trouve qu'il y a des moments magnifiques.
Mais Marie-Andrée Bouchard-Le Sieur, elle vraiment, je tiens à faire un appel ici à tous les directeurs de théâtre de casting, il faut l'entendre beaucoup plus, elle est merveilleuse.
Anna Sigalevitch, problème sur le rôle-titre aussi à votre sens?
Oui, gros problème sur le rôle-titre. Alors moi j'ai beaucoup aimé aussi Marie-Andrée Bouchard-Le Sieur. J'ai plutôt, Julien Bert, moi je l'ai aimé justement parce que je trouve qu'on n'est pas habitué à l'entendre comme ça, et on fait de lui un personnage très totalement négatif, hein, c'est un prédateur, on y viendra après pour la mise en scène, mais c'est un personnage extrêmement négatif dans la façon dont il est dirigé et mis en scène là, et je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé incarné, je l'ai trouvé juste, je l'ai trouvé assez puissant, et sortant un peu de ce qu'on l'entend faire habituellement, j'ai plutôt été convaincue. En effet, le gros problème c'est Médée. Bon. Joyce El Khoury, comment dire, je ne comprends pas en fait ce qu'elle essaye de faire, ce qu'elle fait. Pour moi, il y a des problèmes d'intonation, il y a des problèmes dans les aigus, il y a des problèmes de ligne. Elle a pas de, il y a pas de consonne. Donc tout est un peu, ça tangue, tout est un peu flottant. Rythmiquement, c'est très compliqué aussi de comprendre. Tout d'un coup, hop, elle retombe sur ses pattes, puis ça accélère, ça ralentit. C'est très 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 étrange. Alors bon. Ce qui est pas mal, c'est que au moins c'est pas une Médée qui est complètement furie et hystérique, et elle a une certaine tenue sur scène, mais ça manque d'épaisseur, ça manque de grandeur, ça manque de folie, ça manque de tragique. Enfin, c'est difficile, quoi.
Ça manque de tragique, c'est embêtant pour Médée quand même. Oui, Emmanuel Gianni.
Oui, alors là, je dirais que la chanteuse peut avoir des circonstances atténuantes. Vocalement, je partage tout à fait votre avis, Anna. Dramatiquement, parce que la mise en scène de Marie-Ève Signerolle veut, non pas nous expliquer, mais en tous les cas donner à Médée des circonstances atténuantes. C'est ça qui est un peu étrange. C'est que on est là, on est en Grèce, et on n'est plus en Grèce, en Turquie, on n'est plus dans la mythologie germanique, mais on est face à des personnages, à des archétypes à qui on veut donner, certainement pour intéresser et plaire au public d'aujourd'hui, des résonances actuelles. Donc forcément, des résonances comme vous et moi, où l'on se reconnaisse, en espérant pas trop quand même dans ces personnages, mais néanmoins. Donc évidemment, on les rend plus quotidiens, plus ordinaires, et on leur fait perdre ce qui peut-être les éloigne de nous, mais fait qu'ils nous fascinent. Si Médée n'est pas une magicienne qui a des raisons, parce que c'est vrai que Jason est un salopard, mais si elle a des raisons et qu'il faut y voir un parallèle avec des femmes qui aujourd'hui, étant vraiment victimes d'hommes abominables, perdent la raison à en venir à tuer leurs enfants, c'est faire de Médée, c'est lui ôter, pour nous la rendre proche, une dimension qui nous en éloigne, mais qui nous la rend d'autant plus extraordinaire. Donc, elle a du mal à avoir du tragique, parce qu'on lui dit de ne pas en avoir, d'une certaine manière.
Et en dehors du rôle-titre de Joyce El Khoury, l'autre plateau vocal, le reste du plateau vocal.
Oh ben on en a parlé. Moi, je trouve que je suis d'accord avec Emmanuel sur la Dircée de Marie-André Bouchard-Le Sieur, sur Julien Bert. Moi, je l'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé aussi Lila Duffy en Dircée, donc qui est la nouvelle femme. Elle a un premier air qui est extrêmement difficile avec des vocalises à n'en plus finir, et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle a un timbre assez fruité, c'est pas pour moi, il y a vraiment un gros problème qui est Médée, hein. Et en termes de mise en scène, si on peut, juste parce que il y a une vraie proposition au départ que je trouve très intéressante, il y a une très belle idée un peu bergmanienne qui est de mettre les enfants au centre de cette histoire familiale, et ça m'a même ému beaucoup. Donc ils sont présents dès le prologue, ils sont présents dans toute la scène des préparatifs du mariage et du mariage où ils assistent comme ça au remariage de leur père, dont ils ne sont absolument pas dupes. Et donc il y a beaucoup de vidéos, ils sont filmés, on voit l'aîné dessiné, on le voit exprimer,
il joue très
des
bien
choses,
d'ailleurs, il joue extrêmement,
il joue extrêmement
bien,
c'est, et ça,
enfants.
Je trouve que c'est vraiment une très 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 belle idée d'avoir mis les enfants au centre du drame entre le père, la mère et la belle-mère. Malheureusement, après, il y a trop d'idées et ça se réduit en une critique du patriarcat qui, à mon avis, est un peu à gros traits. Et c'est dommage parce que ça, il y a quand même des choses intéressantes dans la proposition.
Merci à toutes les deux. C'était donc Médée, mise en scène par Marie-Ève Signerol et dirigée par Laurence Equilbé, jusqu'au 16 février à l'Opéra Comique. Emmanuel Giuliani, Anna Sigalevitch, merci à toutes les deux d'être venues dans les Midis de Culture. Toutes les références sont évidemment sur la page des Midis de Culture.